Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur choc.ca, c'est le tome 36, le chapitre 396 de Mission Encre Noire qui commence. Les allongées déplacent le point de vue de l'histoire. Elles nous tirent de leur côté pour regarder les plafonds, ciel et tuyaux d'aération, feux de circulation et toits d'immeubles avec la fumée qui monte paisiblement dans le noir, enseignes fluorescentes derrière la neige qui tombe, fils électriques sur lesquels se posent les pigeons et la cime des arbres. Quand, pour punir les petites, on les envoie dans leur chambre, la porte fermée, certaines résistent, tapant des poings et des pieds, tandis que d'autres y trouvent leur compte en s'enfermant à double tour, jouent aux poupées russes à la manière des enfermés qui survivent en faisant sauter les verrous, tomber les murs par la force de leur imagination. On aime dire que la femme obéit toujours sur l'oreiller. Je rêve ici. J'écris ici, dans mon lit, entouré de livres, de bougies, d'ailes invisibles pour me déplacer dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et avancer sur ce chemin d'encre qui noircit les pages, prolonge la vie en dépit de ce qui la fragilise. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait des Allongées par Jennifer Bélanger et Martine Delvaux, paru en 2022 aux éditions Héliotrope. Qu'est-ce qui se trame dans un lit alors qu'allongées, les deux autrices sont prises en otage par des douleurs et des fatigues chroniques qui parfois vous déchirent en deux ou encore vous laissent le souffle court? Comment témoigner de ce qui échappe au regard, de ce qui ne se partage pas jamais? À quoi ressemble le monde vu d'un lit, cet étrange objet, lieu grave s'il en est, lieu de naissance, de passion, de désir, de mort, de souffrance et aussi d'oubli. Car voilà, comment peut-on avoir une vie quand on l'a subie couchée ? Martine Delvaux et Jennifer Bélanger s'entourent d'autres femmes, écrivaines, artistes, amies, mères, filles, amantes et soignantes, pour rendre hommage à toutes celles qui plient sans doute un peu plus chaque jour sous le poids de leurs plaies et blessures et qu'on invisibilise encore trop souvent. Les voix de ces femmes qui luttent, se rebellent, s'arc-boutent devant un monde qui préfère les reléguer au rôle de paresseuses, d'hystériques ou de martyrs, cinglent les pages de ce court essai. Les deux autrices le font devant vous à l'écrit comme à Mission Encre Noire ce soir, car il reste le rêve et l'écriture d'autres récits. J'accueille Jennifer Bélanger et Martine Delvaux. Bonsoir à toutes les deux.
Bonsoir Eric.
Bonsoir.
Jennifer, vous êtes l'autrice du roman Menthol, finaliste des prix littéraires du gouverneur général. Vous avez fait du corps malade féminin le sujet de votre thèse de doctorat, supervisée par votre professeur de littérature à l'UQAM, Martine Delvaux. Martine, vous êtes romancière et essayiste féministe. Vous avez publié Thelma, Louise et moi, Blanc dehors, qui était finaliste des prix du libraire, des libraires et du prix du gouverneur général. Rose amère, C'est quand le bonheur, Le monde est à toi et Les filles en série des Barbie au Pussy Riot. Plus récemment, Je n'en ai jamais parlé à personne, un livre composé de témoignages recueillis dans la foulée du mouvement Moi aussi et qui est publié aux éditions Héliotrope également, tout comme votre essai Le Boys Club qui a remporté le Grand Prix du Livre de Montréal. D'où est partie l'idée de cet essai? Pourquoi les allonger au féminin pluriel?
D'abord, c'est un sujet qui nous intéresse. Bon, Jennifer pourra parler de ce qu'elle a fait, elle, dans son mémoire de maîtrise et de ce qu'elle fait dans sa thèse de doctorat. Mais son travail à elle s'inscrit aussi dans la foulée d'un projet de recherche que moi j'ai à l'UQAM qui se termine là en ce moment sur l'écriture de la douleur chronique chez les femmes. Et ça, c'est une expérience personnelle qui est la mienne. Je souffre de douleurs chroniques au dos. J'ai une dégénérescence discale depuis qui a été diagnostiquée là, en 2012. Ça fait donc 10 ans que je vis avec ça. Et dans la foulée de nos travaux, on avait été invité à participer au OFTA. On était invité à faire à avoir une conversation, donc peut-être qu'on pourra en parler un peu plus, mais ça nous a amené à réfléchir à cette figure des femmes allongées, des femmes alitées ou sur un récamier, donc à la fois dans la peinture et puis dans les récits. Et voilà, les allongées, le livre est né de tout ça.
Mais est-ce que le livre est le prolongement de certains sujets ou de conversations que vous avez eues au cours de ce colloque?
Oui, ben c'est ça. En fait, on a participé au FTA, puis on voulait cerner une problématique un peu plus précise pour parler des douleurs chroniques. Puis on avait le livre de Audre Lorde et... j'ai un blanc, mais un autre...
Anne Boyer, non?
Oui, voilà. C'était de faire dialoguer, en fait, leur vécu avec le nôtre, mais aussi... d'aller chercher une perspective un peu plus large. Donc, moi aussi, ça part d'une expérience vécue, l'idée qu'on fonctionne allongé, on écrit allongé, mais que toute la vie se déroule autour du lit. Donc, on voulait justement ramener cette perspective-là à un niveau horizontal, de par voir ce qu'on peut voir de ce point de vue-là.
Pour ouvrir l'essai, il y a une citation de l'écrivaine belge Nicole Malanconi, tirée de son livre « Hôpital Silence ». Pour résumer la citation, une femme souffre, on fait comme si elle n'avait pas de parole. J'avais envie de rappeler Marguerite Duras qui, elle, annonce en ouverture du journal intitulé « La douleur », je la cite, « La douleur est une des choses les plus importantes de ma vie », elle rajoute, « C'est un combat sans nom ». Quelle place habite la douleur dans votre vie et dans votre travail d'écrivaine ?
Ah ouais, mais cette citation cet ouvrage de Duras, moi je l'ai enseigné 1000 fois et c'est vrai que c'est très inspirant. Et Duras avait d'ailleurs écrit la préface, avait fait une chronique, un compte rendu du livre de Malanconi. Moi c'est comme ça que j'ai découvert Nicole Malanconi, qui est beaucoup moins connue que d'autres autrices. Et Hôpital Silence, c'est vraiment sur la maternité, une maternité française, entre autres sur l'avortement. On est en plein dans les années 70. Enfin, c'est vraiment un livre fabuleux. La douleur, moi ça me hante, cette notion de la douleur, ce concept de douleur me hante depuis très très longtemps. Et ce qui m'a fasciné au cours de toutes ces années, c'est comment elle est impossible à transmettre, c'est-à-dire comment elle est impossible à mettre dans le langage. Et c'est un peu le livre de Duras arrive à attraper ça. Elle essaye par tous les moyens possibles de mettre des mots pour nommer cette douleur, à la fois celle vécue par son mari Robert Antelme qui revient des camps de concentration, et puis la sienne à elle qui l'attend, espérant qu'il survive. Mais nombre d'autrices qui se sont intéressées à la notion de la douleur, je pense à Cali Tal ou à Elaine Scarry, mettent en exergue le fait que c'est impossible à mettre en mots. Et moi, c'est une des dimensions qui m'interpelle.
Oui, mais le côté paradoxal de dire qu'on se retrouve devant une atrophie du langage, mais en même temps, comme tu l'as mentionné, Duras, peut-être qu'il n'arrête pas de tourner autour, mais on est devant un excès de mots, un excès d'expression physique. Qu'est-ce qu'on fait avec ces symptômes-là qui sont aussi une forme de langage? Donc, on se retrouve devant plusieurs manifestations de cette douleur-là qui prend aussi plusieurs formes, que ce soit justement une douleur liée à l'avortement ou à des douleurs chroniques ou au cancer, des maladies qui sont plus ponctuelles. On compose avec une douleur qui est amenée aussi elle-même à changer au cours du temps.
Ce qui est fascinant, c'est que, hormis la question du langage, une personne peut être souffrante devant nous. Ça parle du rapport humain ou des limites de notre empathie. D'où la possibilité de la torture, mais d'où aussi la possibilité du médical en général. Le médecin ne sent pas la douleur qu'elle provoque. On a souvent pensé que les bébés, par exemple, ne ressentaient pas la douleur. Encore aujourd'hui, on a tendance à penser que peut-être les femmes la sentent moins ou peuvent la tolérer plus. Donc, c'est cette impossibilité, au fond, de partager la douleur. Le corps qui est devant nous et qui souffre, on ne peut pas sentir ce qu'il sent. Mm-hmm. Et ça, c'est un grave problème par rapport au médical.
Jennifer, comment avez-vous procédé? S'agit-il d'un journal, d'un échange épistolaire? Quelle est la part tirée de votre expérience, de l'expérience, de l'événementiel, et celle peut-être tirée de la fiction?
En fait, c'est les allongés, ça s'est passé, on a choisi la forme des fragments, parce que c'est une forme qui convient à l'expérience vécue de la douleur, mais aussi qui est souvent associée aussi au quotidien des femmes, mais pour des raisons qui sont politique, c'est-à-dire que peut-être que c'est une façon d'écrire, de voler du temps avec le quotidien qui s'est dit, je vous présente, je vous confronte. Puis Martine et moi, à chaque matin, on s'envoyait ces fragments-là un peu pour sortir du rêve, puis commencer la journée, puis s'interroger sur la façon dont on allait justement traverser les heures à venir. Donc je pense que ces fragments-là, on s'en met dans des allers-retours comme ça.
Vous dites, je cite, « écrire pour repousser le gluant de la nuit. Pour rester dans la verticalité, il faut renoncer à l'énigme de la douleur. » Quel rôle joue l'écriture face à la douleur, en tout cas dans ce projet-là?
Ben, c'est une question qui nous hante, de savoir c'est quoi les possibles de l'écriture devant la douleur. On n'a pas une vision très thérapeutique de l'écriture, donc c'est peut-être d'aller creuser un mal qui est là de toute manière, mais de l'investiguer, de le questionner, de faire bouger ce mal-là autour de l'organe.
Puis essayer de le nommer, enfin juste essayer de le nommer, de ne pas le nommer toute seule. Je ne sais pas si honte, c'est trop fort, mais en tout cas, il y a quand même un tabou où il y a un interdit de parole lié à l'expérience de la douleur. Quand on souffre et qu'on est, bon, Jennifer et moi, chacune de son côté, on passe énormément de temps allongé parce que dans mon cas, c'est la seule manière de soulager cette douleur. Mais il y a un interdit où il y a une suspicion qui est collée à la peau de la personne qui dit « Oui, mais moi, j'ai très mal et je dois passer des heures et des heures allongées. Est-ce qu'elle a vraiment mal? Est-ce que c'est vraiment vrai ce qu'elle dit? Et est-ce que finalement, elle ne se soigne pas? Elle n'a pas tout fait? » Donc là, on nous propose toutes sortes de solutions, soi-disant miracles. Et écrire ce livre, c'est à la fois essayer de mettre des mots sur la douleur, essayer de rentrer dans cette temporalité que décrivait Jennifer, d'un temps volé puis d'un temps expédié parce qu'on a toujours peur à la prochaine crise. Mais c'est aussi un geste politique qui dit il faut en parler, il faut qu'on arrive à en parler. On est nombreuses et nombreux à souffrir de douleurs chroniques. Mmh.
Oui, mais pourquoi souffrir est-il si tabou? J'apprends à la lecture du livre que les nobles de l'Ancien Régime dormaient assis pour ne pas être assimilés aux malades. Qu'y a-t-il de monstrueux à paraître ou à être fragile?
Ben, peut-être que ça nous renvoie à un reflet de notre propre limite. Quand on a un corps qui souffre, c'est un corps qui s'extrait du social, donc c'est un corps qui devient productif, puis ben, c'est une menace du système capitaliste. Donc, c'est comme toute cette idée-là que le corps qui souffre, on veut l'écarter justement parce que devient une menace ou une entrave à cette idée-là idéologique qui est mise présente.
Ouais, c'est comme si la machine qu'on veut imaginer comme bien huilée, tout d'un coup montre ses failles. Et bon, nous, on a ce luxe quand même de pouvoir écrire sur la douleur, on a ce luxe de pouvoir travailler au lit, d'avoir des jobs qui nous permettent justement d'échapper un peu au tabou, ou en tout cas de le cacher. Mais quand on pense à toutes les personnes dont le corps est taxé par le travail qui leur est demandé, des gestes à répétition, des postures qui sont comme pas humaines, en fait, on peut pas toujours refaire les mêmes gestes sans que ça qui a un coup sur le corps. Donc, ces personnes qui littéralement se tuent à la tâche, ben, elles ont encore moins le droit de parler que nous. Elles sont encore moins susceptibles de faire entendre cette souffrance-là. Et cette souffrance-là, elle est passée dans un monde qui en a besoin. Le monde cesserait de fonctionner, notre monde capitaliste cesserait de fonctionner s'il n'y avait pas tout ce sang versé pour le faire marcher.
Envisager la douleur au féminin, c'est mettre de côté toute une mythologie, une série de croyances qui soumettent le corps des femmes, qui l'ignorent. Mais également, vous en parliez tout à l'heure, vous donnez l'exemple de différences de traitement du corps en médecine, comme si la douleur féminine était en fait une sorte de fatalité.
Ben, ça devient encore plus complexe quand on unifie l'identité et quand on est au croisement de d'autres systèmes de pression. Par exemple, les femmes noires dont on croit encore aujourd'hui qu'elles tolèrent très bien la douleur, donc elles vont avoir moins accès à du diagnostic, mais aussi à un traitement qui suit le diagnostic. Donc, on appréhende vraiment le corps féminin autant dans ses choix vestimentaires. On est comme porté à le contraindre aussi, à l'empêcher de bouger, c'est pas les talons hauts, mais les corsets aussi à notre époque. Donc, ça nous suit, en fait, une fatalité, mais en même temps, c'est social, c'est politique, encore une fois.
C'est comme une prescription. C'est dès la petite enfance qu'on nous dit il faut souffrir pour être belle, et puis après, ben, toute la vie se passe dans une suite infinie de petites et moins petites douleurs. Et pour le passage des règles, par exemple, si on est avec un corps qui nous permet de, enfin, qui force les règles, si on veut, et cette douleur-là, elle est comme considérée normale. Elle est d'emblée considérée normale. Alors, vouloir l'apaiser, vouloir la soulager, c'est comme un défaut de féminité. Donc, tout ça, c'est très subtil, c'est très tacite, on n'en parle pas forcément, mais ça inscrit le féminin dans un continuum de la douleur.
Vous reprenez ces paroles d'Audre Lorde, « En faire trop est l'ennemi du bien ». Plus loin, vous résistez à l'injonction de devoir paraître, aller mieux, avoir l'air en bonne santé. Est-ce que vous vous inscrivez dans la tendance révélée par des blogs comme Nap Ministry, qui fait du repos un acte de résistance, quasiment un acte militant?
Ouais, peut-être que oui. En tout cas, il y a quelque chose d'un... On voulait renverser la vapeur. On voulait vraiment passer d'une figure verticale à une figure horizontale et penser, ben, la résistance, même au sens propre, c'est je reste. Je reste, je ne bouge pas. Et cette figure-là, on voulait la reprendre puis y voir un fer qui n'est pas celui de l'avancée, du progrès, de ce qui est considéré comme de l'activité dans notre vie capitaliste, notre vie verticale, et penser l'horizontalité comme une posture de départ d'une autre forme de fer. Et peut-être qu'il y a là quelque chose à investir, justement, et qui est en phase avec l'état de la planète en ce moment.
C'est questionner si on replace la station d'Audre Lorde dans son contexte, c'est une femme noire, puis... On peut se demander, ben, si réellement un droit au repos, ben, quand les femmes blanches se délaissent de leur tâche quotidienne, ben, c'est souvent des femmes racisées qui vont venir prendre la relève. Donc, je crois que dans des collectifs comme ça, là, de femmes racisées qui disent, ben non, je me sens dans l'herbe, je vais prendre du temps pour me reposer, je crois que c'est un geste radical aussi pour dire, ben, nous aussi, on a le droit au repos alors qu'on a été une main-d'œuvre pendant des siècles et des siècles.
Alors,
oui, absolument.
À travers tous ces textes que l'on découvre, tous ces échanges entre vous deux, la souffrance des allongés forme, j'allais dire des milliards de mots, c'est peut-être un petit peu trop, mais beaucoup, beaucoup d'expressions et de mots. En appréhendant vos sensations, votre livre devient un outil de lutte, en quelque sorte, pour ne pas abandonner, ne plus être invisible. Vous révélez une lumière antérieure, un récit continu de souffrance qui vous font écrire, dans le fond, ces récits singuliers magnifient la pulsion de vie au féminin. C'était aussi un de vos buts dans ce livre, magnifier la pulsion de vie au féminin.
Ben, je pense qu'il fallait... Enfin, on voulait trouver de l'espoir dans tout ça. Il ne s'agissait pas de mettre un constat qui était sans au-delà ou sans avenir. Il fallait trouver dans cette posture de l'allongé, même dans l'expérience de la douleur, quelque chose qui est une lentille ou qui jette une sorte de lumière sur le monde dans lequel on vit. Et bon, le politique n'est pas négatif. Dans cet engagement-là, il est positif. Il veut changer les choses pour le mieux. Donc, c'est peut-être dans ce sens-là que... Ouais, qu'il y a une forme de, ben, d'espoir ou d'optimisme. Là, ce sont tous des mots très galvaudés, mais que je m'en sers faute de mieux.
Oui, mais c'est comme si le corps allongé avait quelque chose, ben, comme tu dis, de lucide ou de clairvoyant.
Ouais.
Comme si, justement, en accusant de l'environnement, de la crise climatique, c'est comme si on pouvait quasiment passer par lui pour en venir chercher une compréhension de ce qui nous entoure ou du monde.
Oui, tout à fait.
Mais je pense que... ouais.
Non, non, c'est ça, mais je pense que c'est cette lucidité, justement. Ouais, c'est voir les choses clairement.
On nous raconte de tout temps des histoires de princesses, de monstres sous les lits, de sortilèges, de sorcières au fond des bois. On aime se faire peur et bien sûr, de vivre heureuse jusqu'à la fin des temps. Rien n'est moins vrai. Alors, est-ce qu'envisager la douleur autrement comme vous le faites, comme vous le mettez en évidence, est-ce aussi donner une autre forme à notre destin, à donner une autre image du bonheur, peut-être, si j'ose dire?
En tout cas, ça nous permet de quitter la belle au bois dormant.
C'est sûr,
qui dort pendant 100 ans, allongé dans son lit, qui attend que le prince vienne la réveiller. Je pense que là, nous, on propose un autre mythe, hein, une autre histoire à transporter.
Mais est-ce une façon aussi de traiter l'urgence, exactement, d'interroger notre imaginaire social façonné par le regard masculin? Parce que vous nommez beaucoup, beaucoup d'œuvres, Klimt, Courbet, Aristote et d'autres exemples. Est-ce que d'avoir accepté d'incarner toutes ces voix allongées ici vous permet d'envisager justement d'autres utopies, vous dites inclure une famille plus élargie?
Oui, c'est comme s'il fallait outils, les outils justement pour nous donner d'autres possibles, d'autres façons d'être, qu'on peut pas tout le temps se réduire à ces hommes au-dessus de nous, même encore aujourd'hui quand on se retrouve chez un médecin ou le corps médical qui incarne le système du masculin blanc hétérosexuel, mais on se retrouve encore peut-être encore une fois dans des dynamiques comme ça où c'est la perspective médicale qui vient éviter une manière d'être, une manière de faire. Donc là, en voulant démystifier ces voies-là, en déconstruisant certains lieux communs, en les citant ces hommes-là pour les replacer dans une histoire plus globale, ça nous permettait de nuancer leurs propos, de venir l'entendre et les déconstruire.
Ben, je sais pas si c'est une utopie, mais en tout cas, c'est un autre discours. C'est une autre, un autre chœur ou une autre symphonie de paroles. Tout d'un coup, le bruit n'est pas le même, les voix ne sont pas les mêmes. Donc, c'est comme si on prenait toutes les petites filles, toutes les princesses, toutes ces images de femmes allongées depuis Claude Alisque jusqu'à je sais pas quoi, parce qu'on en est, enfin, notre culture, notre imaginaire, du moins occidental, il est rempli de ces images-là. Et on prend toutes ces femmes et on les met côte à côte, toutes allongées, et puis on remplit le sol de ces corps qui ne disent pas rien, justement, mais qui se mettent à parler.
C'est peut-être aussi une façon d'affirmer que parler des douleurs chroniques, de la torture au quotidien, c'est aussi affirmer que cela fait partie de votre patrimoine à toutes, qu'il s'agit d'une mémoire intérieure. Est-ce que c'est une façon aussi de reprendre en main sa propre identité?
Oui, tout à fait. C'est une identité, comme tu mentionnais, Maxime, tantôt, de vouloir déconstruire aussi l'idée de solitude, mais c'est une identité qui devient multiple. Je pense qu'on peut tirer une force de cette solidarité-là, qui est justement, vous dites une mémoire intime, mais effectivement, c'est quelque chose de l'ordre d'une mémoire corporelle aussi, de tout ce qu'on supporte, des femmes avant nous, des femmes après nous. On se retrouve dans une espèce de chaîne. C'est une belle image que tu disais, Martine, de ces corps qui sont comme corbés sur le sol. Ces voiles-là sont comblées le sol.
Oui, ou des poupées russes, mais au lieu de les voir à la verticale, on les voit à l'horizontale. On le sait, autour de l'accouchement ou de la grossesse, là, souvent, il y a tout ce discours de... les femmes se transmettent les récits d'accouchement, se transmettent un certain nombre de conseils sur comment faire avec la douleur ou non et tout. Donc, on porte ça. On porte les mémoires, la mémoire des corps, un peu comme les hommes portent la mémoire des batailles, des combats, de l'armée, de toute cette violence qui se transmet de père en fils, sinon, en fait, dans l'imaginaire, pour le moins. Et ben, l'équivalent pour les femmes, c'est cette expérience de la douleur.
Vous utilisez aussi beaucoup d'expressions populaires comme se reposer sur ses lauriers, un cerf bien donné au chien est à demi prix, avec de la patience on vient à bout de tout, ce qui ne tue pas rend plus fort, tomber en amour, porter sa croix. Est-ce que toutes ces expressions forment comme des murs érigés contre la peur de souffrir, ou est-ce plutôt la résilience qui fait peur, l'insoumission que représente, je dirais, le refus de ces expressions-là?
Moi, je dirais que c'est tout ça à la fois. Oui, c'est ça. Dans le fait qu'on les répète, on refuse de les passer sous silence. C'est-à-dire que tout d'un coup, on les met en exergue. Ces clichés, ces proverbes, ces lieux communs qu'on nous sert depuis tout le temps, on les fait apparaître. Et c'est comme si on voulait dire, vous voyez quel est l'espèce de discours, même pas complètement inconscient, mais ça devient des paroles toutes faites, déjà usées, et qu'on répète sans penser, sans vraiment s'interroger sur les mots qu'on se transmet, qu'on donne que les parents transmettent aux enfants, etc. Et là, tout d'un coup, on les met en exergue pour en dénoncer le véritable poids, la force que ça exerce sur les vrais corps dans la vraie société.
Ben, en fait, comme tu as dit, Martine, ça révèle aussi l'absurdité de la chose, parce qu'après, on se demande, c'est quoi la place à occuper si, on peut pas être à la fois résilient, en même temps, faut pas souffrir, mais il faut surmonter cette souffrance-là. En fait, on se demande, comment est-ce qu'on doit réagir? Fait que, je pense que ça prouve la faiblesse de ce raisonnement-là, puis juste de devoir l'abandonner pour repenser nos manières d'agir, puis sortir de cette, pas trop de peur d'empathie, mais le contraire, c'est comme une apathie, puis on dirait qu'on est tellement conditionné à se dire, il faut du courage, il faut s'accrocher, il faut pas tomber, puis à un moment donné, ça provoque la chute, où on se retrouve après à pas avoir de récits qui sont honnêtes, qui sont authentiques envers nos défis.
Pour finir, vous écrivez « Nous sommes les fantômes du quotidien, nous sommes là devant vous, nous ne bougeons pas ». Est-ce que l'histoire muette de la douleur des femmes s'affiche enfin? Est-ce que l'horizon s'éclaircit selon vous? Est-ce qu'un autre langage plus empathique est-il possible?
Et il faut espérer, c'est un peu le pari de ce livre, c'est comme une autre voix de femme qui s'élève, parmi le cœur de voix de femme qui s'élève, bon, celle de la femme qui a mal, c'est peut-être celle que nous, on a à proposer. Bon, après, est-ce qu'il y a un horizon, est-ce qu'il y a de la lumière? J'avoue que l'état actuel du système de santé nous amène, enfin, nous donne pas beaucoup de confiance. Enfin, on n'a pas l'impression que ce soit entendu, mais hier, par exemple, au Salon du Livre, quelqu'un est venu prendre le livre, il nous a parlé. C'était un jeune médecin de famille qui venait de devenir médecin et qui déjà se disait, mais comment faire? On n'a pas le temps, on peut pas bien traiter les gens. La douleur chronique, ça demande toute une batterie de spécialistes. On n'a pas accès. Donc, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Dans l'état, il y a, enfin, plein de personnes passent à la trappe, hein, c'est sûr. Mais les personnes souffrant de maladies, de douleurs chroniques, évidemment, ne peuvent pas être prises en compte réellement.
Exactement. C'est comme si y avait des percées comme ça de chez des gens, des médecins qu'on rencontre qui sont ouverts, qui veulent réinventer un système. Mais justement, c'est tout un système à réinventer, c'est long. Mais les femmes, on est habitués de travailler sur deux fronts. Ça veut dire être optimiste en étant un pessimiste. Ça veut dire de voir, de pas manquer de difficulté, mais de vouloir quand même lutter pour que les choses s'améliorent. Puis je pense que la parole des femmes en douleur est une des voies pour continuer le combat.
Voilà, oui, écrire lorsque les mots ne sortent plus, que la douleur empêche. Écrire, c'est alors résister, s'opposer, exister. L'album Souvenirs des Allongés rassemble un catalogue d'images, d'autrices, de figures, de mots qui ont façonné une histoire de souffrance dans un monde qui tourne à l'envers. À votre tour de tendre l'oreille vers ces voix qui montent et vous parlent peut-être d'un monde à venir. Les Allongés par Jennifer Bellanger et Martine Delvaux, paru en 2022 aux éditions Héliotrope. Merci Jennifer et Martine d'être passées à Mission Encre Noire.
Il ne faut pas dire. Tu me fascines, tu m'effares, tu me submerges. Tu es devenu l'autre de toutes les fictions. Tu m'obsèdes, tu me fissures, tu me traverses. Quand tes yeux s'égarent, quand tu me parles d'elle. Pupille brillante, sourire coupable. Jamais tu ne t'expliques ni ne t'excuses. Comme si tu pouvais sans heurts oublier jusqu'à ma présence. Je te voudrais étale. Sujet inerte d'un examen anatomique. Je poserai ma main gantée de bleu sur ton torse froid et fendrai ta peau de papier glacé d'un scalpel de plomb. Selon Descartes, je trouverai le raccord de ton âme sous ton cerveau dans la glande pinéale. Je creuserai, j'identifierai l'organe qui te confère le pouvoir de m'invoquer à toute heure du jour, de déranger mon sommeil, ma joie, mon indifférence. Parfois, je rêve de ta mort. Je me dis que tu verrais, enfin, qui d'elle ou de moi te pleurerait jusqu'à l'épuisement. Il ne faut pas dire que. Tu me retournes, tu me souilles, tu me rends étrangère à moi-même, tu me blesses, tu me tues, me dépossèdes, tu me réduis de force, quoique sans effort, à un désespoir qui se sait. Il ne faut pas dire. Je renonce à toute fierté, sauf peut-être celle d'avoir renoncer.
Ceci est un extrait de « À quoi jouons-nous ?» par Rachel Lamoureux, paru en 2022 aux éditions Le Cartanier dans la série QR. « À quoi jouons-nous ?» À écrire, bien évidemment. Pour ce faire, l'autrice décide de s'élever contre le déni d'une histoire d'amour qui achève. Puisqu'elle refuse de vivre dans la lâcheté d'une rupture qui s'annonce, elle se résout à étreindre une réalité rugueuse, une bouchée à la fois. Elle écoute ses mots à lui, l'autre, l'amant, malgré tout, puis se lasse. Elle choisit l'écriture. Du côté aiguisé de sa plume, les poèmes fouillent la plaie un temps, empêchent la blessure de guérir. Car ce qui convient le mieux, c'est de se moquer des limites, de feindre la peur du vide, de badiner avec le vertige et sans doute l'ivresse, sinon le jeu n'en vaudrait pas la chandelle, n'est-ce pas ? Oui, l'autrice se présente elle-même dans le texte, Rachel, accompagnée d'autres comparses, auprès de qui elle emprunte, elle associe, elle coupe pour faire avancer le poème et mieux vous saisir dans l'éclat de sa langue nouvelle. À quoi jouons-nous ce soir et avec qui ? J'accueille celle qui, dans un texte paru dans Moebius 172, se disait habitée par le sens de l'insurrection, Rachel Lamoureux est mon invitée à Mission Encre Noire. Bonsoir Rachel.
Bonsoir Eric.
Rachel Amoureux, vous êtes née à Montréal, vous avez étudié la philosophie et la création littéraire, vous êtes candidate à la maîtrise en études littéraires à l'UQAM et vous collaborez régulièrement au cahier critique de la revue Lettres québécoises. Vous travaillez en tant qu'aide bibliothécaire. À quoi jouons-nous, paru au Cartanier en 2022, est votre premier livre. Alors, pourquoi avoir choisi parmi tous les langages celui de la poésie? Vous écrivez « Pas la peine de me lire des romans, ce sont des histoires à dormir debout ».
La terrible question de la poésie. Ouais, j'ai envie de dire, plus j'ai écrit de la poésie, plus j'ai remarqué que ça ne me convenait pas. Quand j'ai commencé ce projet d'écriture, je voulais m'inscrire un peu dans la mouvance des Herbes Rouges avec René Lapierre. Je l'avais énormément lu et c'est lui qui m'avait donné envie d'approcher une écriture qui serait quand même assez narrative, mais quand même versifiée de façon libre. Mais c'est ça qui m'intéressait. Je trouvais qu'il y avait une espèce de clarté dans sa poésie et j'avais envie de ça. Et pour ma part, je suis en littérature, mais je viens de philo et j'ai beaucoup de difficultés à lire des romans où est-ce qu'on sent la construction des personnages, où est-ce qu'on comprend le filon narratif, où est-ce qu'on attend qu'il arrive quelque chose, justement. J'aime bien les livres où est-ce qu'il ne se passe pas grand-chose et je crois que c'est le cas de À quoi jouons-nous. Avec mon éditrice, on rigolait un peu, on disait que c'était un livre entre quatre murs. C'est une pièce, c'est une chambre, c'est peut-être un appartement parfois. On ne sait pas trop on est où, mais ce qui m'importe plutôt, c'est les événements langagiers qui se passent dans nos esprits, puis qui se transmettent par des formes d'émotion.
Mmh. Pour votre entrée en littérature, vous choisissez une marraine, et pas n'importe laquelle, une citation de Nathalie Quintane, tirée de Cranshaw. Je cite « Pourquoi suis-je encore cette chèvre-là ? » Est-ce que vous rejoignez l'autrice française qui porte un regard humoristique et critique sur différents sujets, ses livres, en tout cas les premiers, sont plutôt fragmentés, non linéaires. Est-ce que c'est votre cas dans ce livre de poèmes ?
C'est une excellente question. Il faut savoir que cet exergue-là, je l'ai convoqué à la toute dernière minute. C'est un autre exergue de René Lapierre. Et en fait, si je puis le raconter rapidement, dans ma première rencontre avec Alexis Morin, mon éditrice, elle m'a fait découvrir Cranshaw. Elle m'a lu un extrait un peu au hasard qui présentait le rapport un peu rigolard entre l'amour et la mort, disant que en littérature, les livres ne portent que sur l'amour ou la mort, sinon cacahuète. Et ça m'avait fait rire, mais ça m'avait un peu énervée parce que je me disais c'est pas assez sérieux, c'est grave ce dont je parle. Je veux dire, moi le pathos, c'est ça, c'est là. Je suis toujours en colère, j'ai besoin que justement on s'insurge. Donc si on rigole trop, on réduit les choses, puis on a une posture trop satirique. Et j'avais peur un peu de ça. Mais en voulant jouer la bonne étudiante, j'ai emprunté le livre et je l'ai lu. Et c'était un grand bouleversement pour moi. Et c'est ce qui m'a lancée dans l'élaboration d'un projet de mémoire sur ce livre-là. Et depuis, ça a vraiment infléchi ma pratique d'écriture. Mais on la retrouve pas beaucoup. En tout cas, comment je peux dire, ces changements d'approche de la poésie, de l'écriture, mais aussi de la blague, même de la satire, c'est pas très présent dans Quoi jouons-nous, parce que ça m'habite depuis le processus.
On retrouve quand même un peu d'ironie dans...
Un petit peu.
En tout cas, il y a cinq parties dans votre livre de poèmes intitulé « La figurine, le funambule, la face cachée, le fumiste et la fantasque ». Qu'est-ce qui les distingue ? Y a-t-il un récit ? Y a-t-il une progression ? Y a-t-il différentes formes d'écriture ?
Je vois plutôt ces sections-là comme des tableaux, des scènes. Il y a certaines personnes qui m'ont parlé du livre, qui l'ont lu et qui m'ont dit « Ah, c'est l'histoire d'une rupture ». Pas exactement, en tout cas pas dans mon esprit. C'est des scènes relationnelles, discursives. Pour moi, il y a un fouillis. Il y a un fouillis de souvenirs, il y a un fouillis de situations qui tendent à revenir, que j'ai vécues dans différentes relations et que je me disais, mais ça se peut pas que ça arrive encore comme ça. Et donc, j'essayais de ne pas tellement créer justement des personnages, mais de recréer ces scènes-là. Puis d'essayer de recréer les dialogues, mais aussi le discours interne, le flot de pensée qui opère quand on est en train de vivre cette situation-là. Donc, voilà.
Alors j'ai noté également, comme à l'instar de votre texte dans Moebius, qu'il n'y avait que très peu de ponctuation, voire pas du tout, ni de majuscules d'ailleurs. C'était déjà le cas dans le texte qui était paru dans la revue. D'ailleurs, si je fais juste une aparté sur ce texte, un texte qui était intitulé « Enfant roi dans la détresse », où déjà se dessine un trait de caractère, un trait de votre écriture, sans concession, concis, froid, ironique aussi, pas mal. Je vous cite le texte de Moebius, « Le lien du sang est une mauvaise blague, un vestige monarchique de pouvoir visant à instaurer en lui la logique du « nous » contre eux. » Et puis plus loin, vous ajoutez « Je me sentais capable de profonds ravages. » Y a-t-il dans ce livre de poèmes la même énergie ?
Pas tout à fait, parce que Enfant roi dans la détresse, c'est par rapport à la figure de la mère, et aussi ce qu'il faut remarquer dans ce texte-là, c'est que le père est absent. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant dans mon univers psychique et donc dans mon univers textuel. Mais quand je parle de l'institution de la famille, j'ai beaucoup de facilité à être en colère. Et j'ai pas peur non plus, parce que je me sens pas redevable d'aucune façon au niveau de l'écriture, au niveau de la parole, puisque de toute façon, ma famille ne le lit pas, ne lit pas ces textes-là. Donc voilà. Mais pour ce qui est du texte de À quoi jouons-nous, il y a une forme de colère, mais je trouve qu'il y avait un plus grand épuisement, parce qu'il y a un plus grand désir d'y croire. C'est-à-dire que pour moi, l'espace relationnel, amical, amoureux, même des histoires d'amants, c'était un espace alternatif par rapport à la famille. Et donc, j'y arrivais plus naïve, j'y arrivais avec une forme d'espoir, un espoir un peu aigri, mais quand même. Et ça se sent, je trouve, dans la poétique du texte.
Justement, dans À quoi jouons-nous, nous ouvrons la Bible de Néon. Alors, je ne sais pas si c'est une référence à John Kennedy Toole ou plutôt à Arcade Fire. En tout cas, nous assistons à l'éclosion d'une écrivaine à travers le prisme des relations amoureuses. Plutôt orageuse, on va dire, néanmoins, même si la colère, on peut discuter, c'est quand même, on va dire, un peu dark. Je cite « J'étais morte, me revoici vivante dans ton siècle mensonger ». Qu'est-ce qu'il y a à prendre dans les relations amoureuses ? Est-ce que chaque rencontre est un nouvel univers, une possibilité nouvelle d'écriture ?
D'écriture, je sais pas. C'est des espaces de redéfinition de soi, ça c'est sûr. Mais on arrive quand même avec le souvenir de toutes ces anciennes relations, ces anciennes expériences. Et je pense pas que mon approche, c'est de nier le passé. Quand je dis je suis morte et je me revoilà vivante, si on veut, j'étais morte, c'est plutôt de dire à quel point est-ce que c'est consternant, puis à quel point est-ce que il y a des morts à soi dans les dynamiques humaine, il y a des temps de la vie. Et c'est très difficile de soutenir qu'on reste la même personne après des événements aussi marquants, des rencontres aussi marquantes. Et donc, je dirais pas qu'il y a une écriture pour chaque relation, mais que mon écriture change irrémédiablement en fonction des rencontres que je fais. Je suis très perméable aux gens. Ouais.
Alors, vous laissez peu de place à la mélancolie dans le texte. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait plus d'humour, d'ironie, malgré la rancœur. Je vous cite « Je mordrai le joyau, me nourrirai de ma faim. Ce sera comme quand on rêve, qu'on perd toutes ses dents. On se réveille avec au palais un goût de cerise, perfide, un relent d'alcool. » Cela dit, écrire sur l'amour implique un déplacement du propos, des sentiments tranchés, sinon ça serait quand même assez plate de parler d'amour autrement. Est-ce que l'amour porte un discours politique dans votre livre ? Est-ce que l'amour est-il démocratique ?
Oh, c'est marrant comme question. démocratique ? Je sais pas. Mais moi, ce qui me vient en tête quand je t'écoute comme ça, c'est que l'amour dans mon espace discursif puis dans mon espace mental, c'est pas cette construction fantasque, c'est pas cette construction positive, c'est pas le moment où on idéalise l'autre, pas du tout en fait. Ça, c'est pas aimer. On voit pas l'autre, je veux dire. Moi, ce que j'essayais de montrer, c'est que l'amour, je le dis dans le livre, là, c'est la force faible d'aimer malgré, c'est tellement éprouvant aller à la rencontre de l'autre et surmonter les déceptions. Alors ça, c'est un signe d'amour. Parce qu'on se dit, mais c'est un peu chrétien et c'est frustrant parce que j'ai envie de me dépêtrer de ça. Mais tu sais, moi je rigolais parce que la Bible de Néon, oui, c'est un clin d'œil à Arcade Fire, mais c'est aussi, moi j'ai un passé familial, religieux et j'essaie d'en rire et de m'en défaire. Mais la question de la culpabilité chrétienne, elle est très présente, du sacrifice, de la soumission, etc. On en a marre de ça. Il ne s'agit pas non plus de s'oublier dans la relation à l'autre. Mais en même temps, on ne peut pas avancer avec une personne si on a juste des exigences impossibles et que dès que ces exigences impossibles-là ne sont pas rencontrées, ben on se barre ou on la nie. Ben c'est impossible de construire.
Ou on vit seul. Parce que justement, j'avais noté cette citation-là. « Je contemple en moi la force faible d'aimer malgré. Je tâte la plaie, je l'infecte, c'est plus fort que moi. » Dans le poème se met en forme justement une solitude douloureuse. Est-ce que l'écriture permet d'humaniser les relations destructrices ou encore écrire, est-ce jouer à se faire mal ?
Ah, c'est intéressant. Bah, oui, ça humanise les relations, à mon sens, parce que moi, j'essayais de faire valoir les nuances. Il ne s'agit pas de diaboliser les êtres, ce n'est pas intéressant de toute façon. Mais c'est quand même de ne pas nier qu'il y a eu des souffrances réelles et qu'il y a une telle chose que des plaies ou des cicatrices. Ça existe et c'est là. Il ne faudrait pas, par pudeur, ne pas en parler. Alors, je pense que l'écriture aménage un espace où on peut les penser, les nommer, les circonscrire, mais aussi en guérir d'une certaine façon. Moi je ne crois pas du tout que l'écriture soit un espace de thérapie de soi. Il y a tout un enjeu en littérature contemporaine à ce sujet. Ce n'est pas ça la question. Allez en thérapie si vous avez besoin de thérapie parce que c'est des spécialistes. Mais l'écriture en soi, c'est un espace de resémantisation. Et c'est ça que je trouve intéressant. Parce que c'est de se dire, OK, j'avais un discours préconçu quant à un geste ou quant à un événement ou quant à une personne. Je prends du recul et je découvre dans ma pratique d'écriture ce qui surgit. Parce qu'il y a des choses qui surgissent que dans l'écriture. Et à partir de cette matière, on peut travailler. Et c'est une distance critique, en fait, mais qui est émotive.
Alors, être poète ou écrivaine, c'est être authentique, de parler de ses expériences, entre autres, et puis d'utiliser aussi ses expériences de lecture. Mais en tout cas, on dit être authentique, vivre ou faire vivre une expérience singulière, se mettre à nu, c'est une expression aussi qui est usée jusqu'à la moelle. Dans votre deuxième partie, vous vous nommez « Salut, je m'appelle Rachel ». Le corps du texte, d'ailleurs, ressemble à une forme de curriculum vitae sans retour à la ligne. Vous vous présentez sous la forme d'une furie, d'un orage, je cite, « Ils devront s'y prendre à plusieurs pour me calmer, j'emporterai tout, peine, fureur et couteau de mer. » Est-ce une déclaration d'intention pour une entrée en littérature ? Je serai colère ?
C'est plus, je dirais, tout, peu importe les conséquences, ça c'est sûr. Donc, ce poème-là, précisément, il est drôle parce qu'on se découvre furie en l'écrivant. On ne se dit pas « je suis furie et donc je vais écrire un poème comme ça ». C'est plus « ah, il s'avère ». En tout cas, moi, quand je l'ai écrit, j'étais dans cet état-là. C'était genre « pourquoi je fais si peur aux gens genre ?» Qu'est-ce qui fait que ça se passe comme ça ? Parce que moi, je me trouve sympa. Là. Je venais me voir, je vais vous parler. Mais, mais dans les faits, je me disais « ok, si je regarde l'histoire de mon vécu, puis les dynamiques interpersonnelles, je vois qu'il y a quelque chose de cassant quand même ». Et là, je voulais mettre en image ça. Et donc, c'est pour ça que c'est un peu drôle le contraste entre ce poème sur, voilà, mais où est-ce qu'il y a une espèce de métaphore de la mer ou de la tempête ou je ne sais quoi, mm-hmm. qui est un peu quétaine quand même. Puis, le passage que j'adore, où est-ce que, salut, je m'appelle Rachel, je suis aide-bibliothécaire, machin. C'est ça, c'est sans doute mon passage préféré parce qu'il est très près de l'idée que je me fais de moi. C'est pas ce qui surgit quand arrivent les événements difficiles. Ça, c'est mon curriculum vitae littéraire, avec mes références et ma petite critique institutionnelle. Donc ça m'amuse bien. Mais justement, j'essayais de dépeindre les différentes facettes de soi qui s'expriment en regard des événements. Et donc, il y a le discours qu'on a sur soi et il y a ce que les autres font surgir de nous dans les événements en acte. Donc voilà.
Alors, je ne sais pas si je me trompe, mais ce livre est quand même traversé par un immense désespoir. Alors, les amours déçus, sans doute. Mais quel est ce désespoir? Vous parlez de génération collapsonaute et vous citez Kierkegaard. Le désespoir au sujet d'une chose n'est donc pas le désespoir véritable. C'est quoi ce désespoir?
Je dirais que le grand désespoir surgit d'un sentiment de solitude qui est vécu comme une prison. Tu sais, j'en parle plus loin dans le livre, là, quand je cite Geneviève Desrosiers. Là. Mm-hmm. Tu sais, la solitude n'est pas une prison, j'en sortirai, parce qu'elle parle d'un lit d'acier, etc. Bref. Donc oui, je pense pour ma part avoir vécu des moments de désespoir assez intenses dans ma vie parce que j'avais pas un filet social. Et l'écriture, c'était la dernière chose qui restait parce que c'était une façon de me raconter ces histoires-là puis de m'expliquer pourquoi ce filet-là, il n'était pas là. Donc ça, c'est un peu plus émotif et fort en tant que tel. Mais aujourd'hui, mon regard change parce que j'ai un filet social qui est plus constitué. Voilà. Mais c'est un privilège. Puis je pense que c'est important de rappeler à quel point c'est un privilège ou d'expliquer aux gens qu'ils jouissent d'un filet social et que pour eux, c'est comment dire, ça va de soi parce que ça a toujours été comme ça. Mais tu sais, quand tu vis des déménagements coup sur coup, que tu sais pas si tu vas te trouver un logement, que tu dois organiser ça tout seul par toi-même, que tu es un peu à la merci de tes relations hétéronormatives, amoureuses, parce que voilà, ça fait partie de ce qui donne une certaine stabilité à ton quotidien, bah, c'est vraiment décapant là, quand tu dois retomber sur tes pattes. Là, tu sais. Donc voilà.
Yves Citon, Maurice oui. Blanchot, Søren Kierkegaard, René Lapierre, Deleuze et Guattari, Descartes, Roland Barthes, Geneviève Desrosiers, Henri Michaux, Samuel Beckett, Pierre Peuchemort, je les ai tous notés, André Breton, ce sont toutes et tous des auteurs, des autrices que vous citez. Alors, j'imagine qu'elles occupent une place importante dans votre démarche d'écrivaine. Néanmoins, l'usage que vous en faites ici se transforme sous forme, ou en tout cas apparaît sous forme de collage. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est une sorte de remix Rachel Lamoureux?
Non, c'est un peu postmoderne quand même, mais surtout, c'est un désir pour moi de réinvestir des textes qui dormaient. Parce que je ne me sentais pas à ma place en philo et pourtant j'adore la philo et j'en ai énormément lu, mais j'ai lu les textes à ma manière. Et donc c'est ce que je voulais essayer de montrer avec la poésie, c'est que c'était possible de convoquer des textes qui sont considérés comme universitaires ou arides ou dépassés et d'en faire quelque chose dans des récits du quotidien, dans des petits dialogues assez accessibles et de montrer au final que les textes, c'est ce qu'on en fait. Moi, je suis pour les théories de la lecture et de l'interprétation et de la réception, c'est-à-dire que on est indispensable à l'existence de ces textes-là. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de toujours réinvestir aussi des figures blanches masculines et tout ça. Je veux dire, peut-être qu'aujourd'hui, si j'écrivais un autre À quoi jouons-nous, ce ne seraient pas les mêmes références. Mm-hmm. Mais après, je pense que la lecture, surtout quand on n'a pas une formation littéraire, on grappille. Moi, je le vois en bibliothèque, là, et c'est difficile devant le mur de livres qui s'offrent à nous, ne sachant même pas quelle est la sélection qui a été faite dans ce lieu-là en particulier, de faire le départage entre un livre qui est valable sur le plan littéraire, qu'est-ce à dire? C'est quoi le genre? C'est quoi le type? D'où est-ce que ça vient? Est-ce que ça va me parler, etc. Donc moi, ce que j'essayais de montrer avec cet appareillage de notes en bas de page, c'est que accueillez les livres qui vous intéressent ou pas, faites-en ce que vous voulez. Puis il y a de la matière. Il faut juste vraiment se prêter au jeu.
Rachel, qu'est-ce qu'un couple? Une amitié, sinon une association toujours prête à se dissocier. Est-ce que c'est un hymne au polyamour ou le témoignage de l'impossible légèreté de la vie en couple?
Moi, j'ai voulu y croire au polyamour. Je ne suis pas sûre que ce soit possible, honnêtement. Dans la mesure où... je me corrige. On peut aimer plein de personnes en même temps, de différentes manières. On peut être engagé envers plusieurs personnes en même temps, je le crois profondément. Et je crois que c'est vraiment une maladie, le contrôle et la jalousie. Après, ça, c'est autre chose. D'un autre côté, le problème avec l'idéologie du polyamour, à mon sens, c'est que ça fait abstraction du fait qu'on est encore dans un système capitaliste aujourd'hui où est-ce que c'est impossible d'habiter seul, de subvenir à nos besoins comme on l'entend. On voudrait être en commun, se partager les charges émotionnelles, sociales et financières et tout ce qu'on veut, mais c'est pas si simple parce que persistent encore des privilèges masculins, une approche patriarcale de la relation, voilà, etc. Donc c'est, voilà, pour ma part, je suis pas sûre que je crois aux couples, je crois pas au polyamour non plus, je crois aux relations. Donc chaque relation est à inventer.
Ouais, mais vous questionnez l'élan amoureux parce que chat échaudé craint l'eau froide, bien sûr. Je vous cite, les débuts ne peuvent durer, alors ne commençons pas. Alors pourtant, la séduction est plus forte que tout, on le comprend dans la lecture. Je vous cite, on ne s'amuse pas à lancer les corps loin de soi. Soyons raisonnables, ça ne vous ressemble tellement pas de dire ça. Alors, mais pourquoi la solitude reste-t-elle néanmoins si tentante?
Bah, c'est une forteresse, c'est pour se protéger, mais ça ne fonctionne pas du tout, parce qu'on a besoin des autres, parce qu'on ne peut pas exister sans le rapport à l'autre. Et donc, bah ça c'est un peu de la lâcheté, le soyons raisonnables. En fait, c'est ce que je veux dire, c'est débile, ne soyons pas raisonnables d'aucune façon, on n'a pas le temps pour ça. Puis le temps aussi est très présent dans le texte, là. C'est-à-dire chaque mot compte, chaque geste compte, on peut faire des erreurs, mais il faut tenter le coup.
Bah alors, à quoi jouons-nous dans une relation amoureuse?
On joue à apprendre à connaître l'autre en se subjectivant. Je pense que c'est quelque chose comme ça. C'est vraiment, il y a une tierce partie qui est la relation. Puis on se découvre dans la rencontre d'avec l'autre et l'autre se découvre et c'est un cadeau qu'on s'offre mutuellement.
Donc, et la deuxième question logique, puisque ça fait partie, oui, je dirais, de votre entrée en littérature, y a-t-il une correspondance en travail d'écriture? À quoi jouez-vous lorsque vous écrivez?
À quoi je joue? À résoudre des problèmes, des apories. Vraiment, moi, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a mille problèmes partout et qu'on ne se donne pas assez la peine de poser les termes, de les analyser, puis de tenter, non pas de les solutionner, ces problèmes-là, mais de mieux vivre avec, d'être exigeant au niveau de la pensée et donc exigeant dans nos manières d'être.
Nous étions des univers clos, puis les événements nous ont cassés en morceaux. Aimer, désirer... c'est mourir un peu, écrivez-vous. Est-ce qu'il doit y avoir une part de risque dans les relations amoureuses? Doit-il y avoir une part de risque dans l'écriture du poème? Y a-t-il une correspondance entre les deux?
Oui, définitivement. Après, je crois que c'est très triste, les gens qui choisissent des dynamiques relationnelles par confort. Je pense qu'il faut prendre beaucoup de risques dans notre capacité à nous exposer aux autres. De notre côté, moi, je ne crois pas que pour écrire, il faut vivre des choses dangereuses. Là. Et ça, ce n'est pas du tout mon approche. On pourrait dire que j'ai pris beaucoup de risques. Dans les faits, c'est vrai. Mais pour tout dire, je n'ai pas vraiment eu le choix. Ça s'est passé comme ça. Puis il s'avère que je l'ai écrit. Puis pour ma part, si je pouvais vivre paisiblement des relations jusqu'à la fin de mes jours et juste écrire des essais théoriques, ça ne me dérangerait pas.
Donc, comme ça, effectivement.
Donc voilà, l'écriture vient comme elle vient en fonction de ce qui se passe. Et c'est peut-être ce qui me distingue de la pensée du romancier, le poète, mais j'aime pas me dire comme ça. Moi, je dis l'écrivain, voilà. L'écrivain, c'est une personne qui est traversée par les choses et qui pense que le langage peut quelque chose pour nous. Et c'est comme ça que je me sens. Je reviens toujours au langage dès que je me pose des questions, dès que je suis un peu larguée, même quand ça va bien. Je veux dire, c'est une façon pour moi de mieux appréhender le monde.
On n'est pas obligé de vivre des expériences extraordinaires pour écrire, mais néanmoins, vous parlez du vide. Que représente l'attirance pour le vide, pour la funambule, justement, vous en parlez? Je vous cite, ça se passe entre l'oreille et l'hémisphère gauche.
Oui, il n'y a pas d'attirance pour le vide, pas du tout. Je ne pense pas que la funambule aime le vide. Je pense qu'elle est poussée sur la corde. Et donc, on découvre qu'il y a une telle chose que du vide et que ça se passe et dans le monde physiquement et dans la tête. Et donc, il faut peut-être apprendre à resymboliser l'espace. Mais d'un autre côté, il y a des situations réellement dangereuses où est-ce qu'on peut perdre pied et tomber. Et c'est pas drôle, ça veut pas dire qu'on s'en remet. Voilà, le vide, je l'esthétise pas du tout. Mais je pense qu'avec le temps, puis avec les épreuves vécues, on peut le symboliser différemment. Parce qu'il nous aide à progresser.
Dans la dernière partie, intitulée La Fantasque, nous retrouvons la Rachel Lamoureux, l'autrice révoltée, insurrectionnelle du texte Moebius, qui refuse d'être tenu l'unique coupable de ces échecs amoureux. Je vous cite, « On ne me dira pas quoi faire. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Combien de fois me faudra-t-il répéter un mot pour que ce mot devienne réalité ? Non, 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 non. À quoi jouons-nous ? Ça pourrait ressembler à un cri, pas un renoncement cependant. » La révolte permet-elle de déborder de soi-même, de gagner une identité littéraire, une signature en quelque sorte ?
Je ne sais pas si on gagne une identité littéraire ou une signature. Comme ça surabonde, ça déborde. Comme c'est juste, c'est comme ça. Je veux dire, le non, 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 puis il faut que je le répète 6 fois pour que l'autre comprenne. Ça, c'est des dynamiques hétéronormatives. Et en ce sens, je pense que je peux me défendre dans ce livre-là en disant que oui, je pointe l'autre du doigt parce que pour moi, c'était la possibilité de commencer à comprendre que je devais arrêter de toujours commencer par me demander qu'est-ce que moi j'avais mal fait parce que je faisais toujours ça. Puis là, je tournais les choses dans tous les sens puis je me disais qu'est-ce que je peux faire de mieux ? Est-ce que je peux appeler ? Est-ce que je peux écrire un message ? Je cherchais tous les moyens possibles et c'est justement en thérapie. Je parlais avec une psy, puis là, elle me disait, je lui disais, ah, j'ai peur d'être une personnalité narcissique, qu'est-ce que je fais? Puis elle riait, tu sais, elle dit, mais tiens, Rachel, elle dit, le fait que tu te poses la question, c'est que tu l'es pas, tu sais. Et donc, commence à te demander pourquoi est-ce que t'as cette peur-là, puis peut-être parce que t'es entourée par des gens qui ont des traits de personnalité comme ça. Et donc, là, il y avait vraiment un travail d'identifier quels sont les comportements de chacun, puis quelle est la part de responsabilisation quant à ces comportements-là. Et donc, j'essayais, dans l'écriture de ces poèmes-là, dans la cinquième section, d'affirmer une posture où est-ce que je n'étais pas toujours en train de me taper sur la tête, mais de me dire ben, peut-être que l'autre a sa part de responsabilité.
Exact. Voilà. Pour finir, vous écrivez « J'irai dans Paris ». Vous finissez sur « Un bon voyage ne revient pas ». On écrit avec ce qu'on lit, avec ce que l'on fait, avec la vie. Y a-t-il d'autres univers qui vous tendent les bras ? Est-ce que votre entrée en littérature vous ouvre d'autres possibles ? Pas forcément à Paris.
Bon, il y a clairement une idéalisation de la France dans mon univers, là, mais c'est une idéalisation que je sais être idéale. Je sais pertinemment que si je descends là-bas, parce que j'y suis jamais allée encore, ça va être vraiment barbant. Là. Puis ça va, non, mais ça sera juste drôle un peu parce que bon, il y a des librairies, il y a des lieux historiques, machin. Mais non, c'est plus parce que moi, l'inclination que j'avais par rapport au corpus franco-français, ça venait de mon passage en philo. Parce que je m'intéressais à la French Theory, puis pour moi c'était le fondement franco-français qui me restait quand je suis allée en études littéraires, et j'aimais beaucoup les textes littéraires qui me ramenaient à ces fondements en philo, fait que c'est un peu une déformation professionnelle. À la fin du recueil, dans Paris, c'est un clin d'œil au film de Christophe Honoré. Et en fait, c'est qu'il y a une figure du père qui est complètement contrapuntique avec l'idée que je me fais de la figure du père. C'est un père qui est très soumis, qui est hyper présent et qui est très malheureux parce que son vieux fils de genre 40 ans vit une rupture amoureuse dévastatrice et il est super suicidaire, puis il revient à la maison puis il veut en prendre soin puis tout ça. Et donc moi je me disais, ah waouh, dans Paris c'est la figure du père présent, mignon, machin. Donc c'est vraiment des clins d'œil intertextuels, mais je me suis juste amusée avec cette finale-là, voilà.
Mais vous irez à Paris.
Bon, sans doute.
Voilà, Rachel Lamoureux interroge l'autre et soi-même dans la relation amoureuse. Comment croire, comment vivre l'amour quand derrière les embrasements, il ne reste que les miettes des ruptures et des déceptions. Voici une entrée remarquée et remarquable en littérature. Un premier livre de poèmes à ne pas manquer. À quoi jouons-nous par Rachel Lamoureux, paru en 2022 aux éditions Le Cartanier dans la série QR. Merci Rachel d'être venue nous rendre visite à Mission Encre Noire. Voilà qui met fin à Mission Encre Noire ce soir, le tome 36, le chapitre 396. J'ai eu le loisir de recevoir ce soir, en première partie d'émission, Jennifer Bellanger et Martine Delvaux pour nous présenter Les Allongés, paru en 2022 aux éditions Héliotrope, ainsi qu'en deuxième partie d'émission, Rachel Lamoureux, qui est venue nous présenter son livre de poèmes « À quoi jouons-nous ?», paru en 2022 aux éditions Le Cartanier dans la série QR. Voilà, on tourne la page et on se dit et à la semaine prochaine. Salut là. Oh,
barba, acabou de irajar, hein?
É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente.
João, vai, garoto!
Fala a verdade.
Isso na bola.
Não, nem a cerveja que eu não sei.
Ô, Ciro, tira a mão do meu bolso. Agora um aranha.